Et voilà. Alors je vous remercie d'être venu pour assister à la conférence qui nous permet de faire la connaissance d'Alban Cerisier, qui est venu dans deux cadres, dans le cadre du centenaire Gallimard, qui est un grand événement dans le monde de l'édition, un grand événement que la librairie Mola essaie de relayer à sa façon, elle l'a fait de façon un peu multiple, notamment dans cet endroit qui pendant un mois est consacré exclusivement à des livres de chez Gallimard. On a juste mis un livre de chez De Noël pour essayer de voir si quelqu'un pouvait le retrouver. Mais c'est un livre de Noël qui parle de Gallimard. Voilà. Voilà. Donc c'est notre thématique. On s'est dit qu'on allait faire une librairie éphémère autour de Gallimard. Et qui de mieux pour nous parler de cette maison centenaire que l'historien de la maison, l'archiviste Alban Cerisier, qui depuis quelques années est à la fois le futur et le passé de cette maison. Alors Alban Cerisier est un ancien élève de l'École nationale des chartes. Donc à ce titre, il est archiviste paléographe, officiellement, c'est un beau diplôme, et il a fait sa thèse de doctorat sur un sujet qui moi-même me passionne, qui sont les clubs du livre dans l'édition française de l'après-guerre à la fin des années 60. Voilà. Alors désormais, il n'est pas archiviste dans une bibliothèque ou dans un fonds départemental, non, il travaille chez Gallimard où vous êtes secrétaire général, chargé de la conservation et de la mise en valeur des fonds patrimoniaux, ainsi que du développement numérique du groupe, qui est un intitulé très impressionnant. Et c'est dans ce cadre, alors que vous avez notamment une mission qui consiste à suivre le déploiement de la fameuse plateforme d'édition numérique qui s'appelle Eden, et qui est une de vos grandes missions. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes aussi éditeur, une casquette supplémentaire, puisque vous avez édité pas mal de livres d'histoire littéraire, notamment concernant les éditions Gallimard. Voilà. Plusieurs de vos ouvrages concernent la maison d'édition dans laquelle vous travaillez. Une histoire de la NRF qui est parue il y a 2 ans, me semble-t-il, puisque Gallimard enchaîne les centenaires
ce sera le dernier,
année
là,
après année. On trouvera bien un autre après. Hein. Et puis, vous avez pas mal travaillé sur Antoine de Saint-Exupéry.
Oui. Hein,
donc, vous êtes un spécialiste. Vous avez établi des éditions. Et puis, une chose qui m'intéresse aussi beaucoup, vous avez fait un journal de Pierre Louis autour de ces années d'amitié gidienne.
Exactement.
Donc, Gide, à nouveau, vous voyez, on tourne encore autour de Gallimard. Et puis, vos amours vous ont aussi amené vers Massin, puisque vous avez établi le catalogue raisonné du génial Massin, qui a aussi pas mal travaillé pour Gallimard. Voilà, on les retrouve tous. Voilà. Alors, moi, je vais me permettre de commencer. On va beaucoup parler de Gallimard. C'est le nom qu'on va sans doute le plus prononcer ce soir. On va essayer de compter combien de fois on le dit. Mais par une question un peu personnelle, parce que c'est un sujet qui m'intrigue. Et qui me fait me demander comment on peut passer de l'école des chartes, hein, qui forme des archivistes, il y a une certaine imagerie chez nous, hein, le chartiste, il parle couramment latin, grec, l'hébreu peut-être, voilà. Et on s'attend à le voir, bien entendu, dans des caves voûtées à s'occuper de vieux manuscrits, à une grande maison d'édition, à la fois ancienne, mais en même temps totalement contemporaine. Est-ce que c'est une maison assez ancienne pour y faire de la paléographie ?
Alors, quand on travaille sur Saint-Exupéry, oui.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas pire scripteur que Saint-Exupéry. Et donc, les études de paléographie servent beaucoup pour transcrire et trouver et rendre compte des quelques textes inédits de Saint-Exupéry qu'on peut encore trouver. La question, c'est qu'au fond, comme vous le savez, la maison Gallimard est encore une maison indépendante, familiale, complètement tenue par la... la troisième génération finalement des Gallimard, si on part de Gaston Gallimard qui fut le fondateur de cette maison au début du siècle. Et c'est une maison qui a gardé une tradition forte de conservation et de gestion de ses fonds d'archives depuis les origines, qui a toujours travaillé son histoire, alors pas nécessairement comme... historien ou en motivant des recherches particulières, etc., mais surtout en ayant le souci de livrer des pièces, ce qu'ils appelaient ces pièces authentiques pour l'histoire d'eux, c'est-à-dire les Gide, les Claudel, les Martin Dugard ont eu ce souci de publication de correspondances, de journaux, et comme une littérature d'accompagnement, je crois que c'est Nourricier qui disait ça, à très juste titre, qui a toujours accompagné l'histoire de Gallimard et de la NRF. Donc ça rentre dans ce cadre-là, et puis très simplement, voilà, il y a un fonds d'archives considérable à gérer dans cette société privée, composée de toutes sortes de documents et un premier lieu de correspondance éditoriale entre les auteurs et leurs interlocuteurs dans la maison, mais aussi de fiches de lecture, de contrats, etc. Et cette matière documentaire considérable, il faut s'en occuper. Voilà. Et donc la rencontre, elle s'est faite avec Antoine Gallimard, en fait, tout simplement, dans des circonstances très... très banal. J'avais choisi dans le cadre de mon travail de thèse à l'École nationale des chartes un sujet d'histoire contemporaine, d'histoire de l'édition contemporaine, qui était précisément les clubs de livres. Et il se trouvait que Gallimard avait créé dans les années 50, de façon un petit peu cachée d'ailleurs, avec Hachette, un club de livres dont le but premier était de contourner la librairie.
Oui. Donc c'est pour ça que c'était un peu secret.
Et d'organiser de la vente directe, voilà. On craignait beaucoup le boycott des libraires. Voilà. Et j'ai tout simplement été frappé à la porte de la personne qui m'a précédé à cette fonction, qui était Jean-Pierre Dauphin, qui est toujours actif d'ailleurs comme éditeur, mais de chez lui, et qui m'a ouvert de façon très inédite un fonds d'archives considérable. Et puis le lien s'est fait avec Antoine Gallimard, qui m'a proposé de rejoindre la maison, tout simplement. D'accord. Donc j'ai soutenu ma thèse, mais j'ai quitté un peu rapidement
le cursus. Oui, c'est ça, parce que votre thèse, vous l'avez même soutenue pendant que vous étiez chez Gallimard, en fait. Hein.
Ouais.
C'est un peu ça.
D'accord.
Immédiatement, le monde du travail. Voilà. Alors, donc, vous êtes secrétaire général, ce qui est un titre qui impressionne toujours un petit peu. Hein,
ouais.
On sait que, par exemple, nous, on a travaillé pas mal sur Gallimard. On n'a pas d'organigramme de Gallimard.
Ça n'existe pas.
Non. On ne sait pas trop qui dirige quoi, qui fait quoi. Bon, c'est toujours. Et puis, quand on demande, on a naïvement demandé et on nous a dit, mais ça n'existe pas. On a trouvé sur un site un organigramme pirate et donc qu'un étudiant avait fait ou dans lequel il y avait déjà pas mal de fautes. Mais donc c'est une maison qui, malgré tout, cultive quelque chose d'un peu particulier, qui est un peu le secret aussi.
Ouais.
Donc, vous êtes secrétaire général d'une maison. Dans les arcanes, c'est plutôt les adeptes du secret, mais vous en êtes aussi l'historien.
Ouais.
Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est facile à vivre ? C'est possible. Vous êtes dans une situation de devoir faire le tri, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de chez Gallimard.
Est-ce que c'est
un peu compliqué ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire ? Est-ce qu'il y a des secrets ? Alors, je ne vous demande pas de nous dire des secrets, je vous demanderai dans une demi-heure.
Mais je dirais que c'est peut-être compliqué pour des périodes très très récentes, hein, pour l'activité de ces quelques dernières années de la maison.
Les gens ont toujours envie.
Voilà, mais de par justement cette idée qu'il y a une tradition de mise au jour. Et c'est vrai qu'il y a une tradition de secret dans la façon de comprendre, de rendre compréhensible l'organisation interne de cette maison. Les éditeurs ont beaucoup de mal à être dans l'explicite, en fait. Je le vois très bien avec mes confrères, c'est-à-dire que dire ce qu'est une collection, exprimer... Je me souviens, par exemple, avec toute la sympathie et l'admiration que je porte, je me souviens d'une conférence de Teresa Crémisi au Centre national des livres à Paris, qui était invitée pour raconter son expérience d'éditrice, même directrice littéraire de Gallimard pendant de nombreuses années. Et elle avait parlé pendant 2 heures sans citer un seul nom d'auteur. Voilà. Ce qui est quand même frappant, quoi. Ouais. Voilà. Donc on voit très très bien cette difficulté à dire, cette collection ou ces choix-là, c'est de les désigner par des choses très explicites, très précises. Non, parce que c'est un peu injurier l'avenir, quoi. Voilà, de dire ça, c'est tout de suite s'engager. Or, le sentiment premier d'un éditeur, c'est précisément d'essayer d'être le plus ouvert possible pour être dans cette disposition d'esprit d'accepter ce qui est à venir et qu'il ne connaît pas et qu'il ne cherche pas à désigner.
Voilà.
Voilà, donc ça, c'est un point important.
D'accord.
Après... dans l'activité même d'historien que j'essaie de maintenir. Alors, c'est un peu ma fonction aussi. La maison Gallimard a besoin de ça. Je suis aussi obligé d'y aller un peu fort, de provoquer des mises au jour d'une certaine façon documentaire.
D'accord.
Et ça, je m'y emploie.
Vous avez la clé de certains placards qu'on ne voudrait pas ouvrir.
J'ai le pass.
D'accord.
Comme on dit. Donc ça me permet d'ouvrir un certain nombre de placards, en effet. Là, on a eu le plaisir, mais vous en reviendrez peut-être, de pouvoir présenter pour la première fois au sein de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, là, sur le centenaire de la maison, des fiches de lecture, par exemple. Ça, c'était quelque chose, c'est le cœur du système, la fiche de lecture. C'est là où ça se passe.
Et c'est le lieu de tous les fantasmes aussi.
Et c'est aussi le lieu de tous les fantasmes.
Ah. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette maison, dont on va parler, mais cette façon de protéger quelque chose qui... Il ne faut pas qu'on sache comment ça se passe, somme toute, parce que, justement, vous parlez de l'avenir, on protège le passé pour que l'avenir ne soit pas hypothéqué. Et qui est aussi, le fantasme est aussi un moteur qui fait que tous les auteurs veulent être chez Gallimard, parce qu'ils fantasment aussi beaucoup là-dessus.
C'est vrai, mais au fond, on n'en a jamais fini de découvrir. On est toujours confronté à l'insuffisance de ce qu'on montre. Donc moi, ça ne m'inquiète pas tellement, ça. Je suis pas sûr que le fait d'entrer dans l'explicite, de montrer des correspondances d'auteurs, de publier des fiches de lecture, sauf si ça devient... évidemment, le projet n'est pas de publier les plusieurs milliers de fiches de lecture que nous avons dans la maison, ou de rendre disponibles tous les contrats, parce qu'il y a des secrets d'affaires, il y a des... C'est une maison qui vit, et là, cette salle en témoigne, vraiment, qui vit beaucoup de son fond aujourd'hui. Encore aujourd'hui, peut-être moins qu'avant, parce que les fonds s'érodent et que c'est compliqué à maintenir, de par la vie du livre lui-même et de contexte de l'édition. Mais tout de même, c'est encore très, très présent. Et donc, ces archives, ce sont des archives courantes. Le contrat, qui régit aujourd'hui l'exploitation de l'œuvre de Saint-Exupéry, et notamment du Petit Prince, qui est quand même une des œuvres les plus emblématiques du fonds Gallimard, de par sa diffusion. C'est un contrat de 1929, c'est une pièce d'archive, certes, mais c'est un contrat dont la réalité économique est palpable.
Oui.
Faut y faire attention à ça.
D'accord. Alors, cette fameuse maison Gallimard dont vous connaissez les secrets, enfin, ou plus ou moins. Alors, vous avez fait plusieurs livres. Donc, j'ai parlé un peu de l'histoire de la NRF, qui était pour le premier centenaire, pour vous préparer un peu physiquement au deuxième. Et là, vous avez fait... ça, c'est le côté Gallimard aussi, à la fois une maison populaire et une maison qui pratique le luxe.
Ouais.
Donc, le petit découverte pour les pauvres. Et puis, la version luxueuse d'un livre qui est déjà quasiment épuisé, d'ailleurs, ce qui est aussi une logique assez étonnante, du catalogue de la magnifique exposition, dont on a quelques petits... reprise ici. Vous avez organisé des deux façons. Donc cette maison Gallimard, votre découverte, vous l'avez nommée d'un titre que je trouve très très joli et qui veut dire plein de choses, un éditeur à l'œuvre. Donc pour mettre dans un titre très court, rapprocher éditeur et œuvre. Ouais. Expliquez-nous, moi je pense savoir pourquoi, mais vous soulignez l'importance de l'œuvre, le travail artistique dans le métier d'éditeur. Qu'est-ce que vous vouliez souligner dans ce titre par rapport à cette maison d'édition qui peut la distinguer des autres?
Mon premier dessin par rapport à ce titre-là, c'est sous-jacent aussi à l'exposition de la Bibliothèque nationale, c'est de dire qu'à travers cette histoire singulière qui est celui de cette maison d'édition familiale, une trajectoire familiale, étaient sous-jacentes des évolutions fortes. D'un métier qui était celui de l'éditeur. Voilà. Donc je voulais, pour sortir de la simple chronique de la maison d'édition, poser un certain nombre d'invariants ou au contraire d'évolutions qui étaient liés au métier. Voilà. Cette notion du métier, elle m'est chère et on veut montrer ça dans un contexte qui aujourd'hui tend plutôt à la mise en cause de ce métier dans un contexte de désintermédiation un peu globale du lien qui existe entre l'auteur et son lecteur.
Ouais. Hein.
Donc la notion de l'activité éditoriale, de ce qu'elle désigne en tant que... je ne vais pas dire de co-réalisation, parce que c'est vrai que les auteurs seraient choqués par de tels termes, et je les comprendrais, mais en tout cas de valeur apportée au fait de rendre public un manuscrit, dans tout ce que ça implique en termes d'activité commerciale, activité artistique, activité promotionnelle, etc., etc. C'est quelque chose que je voulais absolument rendre compte dans le cadre de ce centenaire.
Voilà. D'accord. Parce que dans une histoire de l'NRF...
Pour sortir aussi de la géographie, entendez-moi.
Bien sûr.
C'est l'idée quand même.
C'est quand même pas des livres très agéographiques quand même. Même si on sent que sur certains sujets, vous avez été un peu plus délicat. Mm-hmm. Hein, mais parce qu'en même temps, les gens sont encore vivants et puis il faut respecter... il faut respecter quelque chose. Mais dans une histoire de la NRF, déjà, vous soulignez le fait que la NRF elle-même avait une particularité. Elle a été créée par des auteurs.
Voilà, c'est l'autre aspect, effectivement.
Voilà, et que ces auteurs... c'est une maison d'édition créée par des auteurs qui l'ont confiée après à quelqu'un qui n'était pas un auteur. Mais la NRF souhaitait avant tout réunir des auteurs. Racontez-nous comment Gallimard, finalement, est l'héritier de cette chose-là, tout en étant autre chose.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une conviction assez assez forte chez les fondateurs de la NRF. On pourra revenir évidemment sur cette histoire-là pour la clarifier. Mmh. Mais juste sur le principe, c'est très proche de ce qu'écrit Malraux dans L'homme précaire et la littérature, qui est une réflexion à la fois sur l'édition et sur la littérature, hein, où il est d'ailleurs beaucoup question des collections qui sont présentes ici. Il dit que finalement, on devient écrivain que par rapport à d'autres écrivains. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence très très forte, et c'est ce qui fait le fond, la composition de fond, son histoire, entre le fait effectivement d'écrire, d'être un auteur. On écrit de la littérature. Voilà ce que ne cesse de dire Malraux dans L'homme précaire et la littérature. Le pari de Gide et de ses contemporains, et c'est pour ça qu'il y avait un projet critique à l'origine de ça, c'est qu'il fallait créer un espace où les auteurs puissent se positionner par rapport, justement, et constituer un fond par rapport à leur propre lecture et par rapport à leur propre activité critique. Donc, le fait d'avoir une maison créée et dédiée aux lecteurs, et dédiée aux auteurs, où les auteurs se déterminent eux-mêmes et déterminent le choix par rapport à eux-mêmes, par rapport aux lectures et aux échos qui peuvent se définir d'une œuvre à l'autre, c'est un élément constitutif de cette maison. Donc c'est pour ça qu'à son origine, c'est une maison d'écrivains pour les écrivains. Qu'ils se sont offerts à proprement parler, puisqu'ils ils l'ont eux-mêmes financé sur leur propre fond. Ils en avaient la possibilité.
Et en quoi ça se distingue par exemple du travail d'Alfred Vallette au Mercure de France, qui était la grande revue, oui.
Voilà. On en est assez proche. D'ailleurs, c'est un des modèles déclarés de Gaston Gallimard.
Mais en quoi justement, on a l'impression que le Mercure n'a jamais vraiment décollé. Enfin, qu'est-ce qui fait que Gallimard a compris ça et est allé au-delà? Enfin,
bah, je dirais qu'il a. Je pense que le premier à l'avoir compris, c'est Gide. Oui. Hein, c'est-à-dire, c'est l'ouverture d'esprit de Gide, cette espèce de curiosité constitutive, cette non-prévention, cette volonté d'éviter tout particularisme esthétique, doctrinal, moral, politique, qui fait que on est parti sur des bases très 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 ouvertes. Et c'est ces bases très très ouvertes, vraiment liées à l'héritage gidien, donc Gide étant le fondateur et de la revue et de la maison d'édition, hein, il faut le rappeler. C'est sur cet héritage-là que Gaston Gallimard, qui est appelé par Gide et Jean Schlumberger à prendre la gérance des éditions dès 1911, donc dès leur création, c'est là-dessus que Gaston va construire. Donc d'ouvrir le Mercure, mais même si c'est caricatural de le dire, c'est quand même la maison a priori plus peut-être un peu plus d'une école que Gallimard a souhaité
ne pas avoir,
ouais. Même si c'est quand même assez caricatural de dire ça. Hein. Je pense que c'est trop rapide de dire ça.
Mais on peut le dire, on en parlera après. Par exemple, quelqu'un comme Paulhan, qui vous dites Paulhan ou Poyan?
Paulhan.
D'accord. Parce que les gens chez Gallimard disent Poyan.
Oui, il y en a certains, mais ça, okay. C'est...
Donc,
Je suis ce que dit Claire Paulhan, sa petite fille, d'elle-même, okay. Et elle parle de Claire Paulhan.
Donc, enfin, voilà, un cas qui est résolu. non, mais la présence... Alors, il faut parler aussi peut-être des gens comme Jacques Rivière, qui est un Bordelais, c'est vrai, ou de Paulhan, qui sont... Est-ce que ce n'est pas le génie, finalement, de Gallimard, de s'être associé à des gens qui... avaient compris quelque chose avant lui, ou avaient une sorte d'exigence, et se dire que cette exigence-là a été payante?
Oui, c'est vrai. Disons que je ne sais pas si c'est son génie, parce qu'au fond, Gaston Gallimard hérite de ça, encore une fois. Je veux dire, il vient, il est appelé par Gide, il va s'occuper de cette maison, il va y mettre son héritage progressivement, mais il va effectivement le mettre, il va avoir aussi le génie d'aller chercher de l'argent ailleurs. Donc ça c'est important, mais il hérite de ça, il hérite de Rivière. Je veux dire, c'est pas lui qui va chercher Rivière, Rivière est déjà là, hein. Il est déjà dans cet entourage. Non, je pense que son vrai génie, c'est vrai, ça va être de bien savoir s'entourer, d'y veiller avec Paulhan, avec un autre Bordelais qui est Jacques Lemarchand, enfin avec d'autres personnes. Il va savoir maintenir une grande densité de réseau et qui lui assure une proximité à beaucoup de foyers de création ou de réflexion. Son génie, ça va être de dissocier justement l'activité de la maison d'édition de ce seul héritage très littéraire, très revu de littérature et de critique, qui a été celui de la NRF. C'est-à-dire que son pari, c'est de dire on est d'accord sur, au fond, ce qui compte, voilà, Donc l'objectif d'apporter une large diffusion, d'apporter une diffusion à cette littérature exigeante, une littérature de qualité.
Avec une volonté aussi de faire des beaux livres.
Oui,
c'est de faire ce qu'explique Gide, il dit qu'il en a marre de voir des livres atroces, épouvantables, il veut des beaux livres.
Ouais, voilà. J'attends de cette entreprise l'assainissement de la typographie, enfin voilà, il y a un projet typographique très fort.
Il y a aussi une volonté artistique
très
assez rare à l'époque.
Ouais. Des livres, c'est dans la correspondance entre Claudel et Gide, des livres excellents de forme et de fond. Hein. Voilà. Mais Claudel pose tout de suite la question, est-ce qu'une entreprise peut être viable commercialement en ne se préoccupant que de publier des livres excellents de forme et de fond. Claudel en doute, même si il a on peut faire le parallélisme entre Gide et Claudel, même s'il y a beaucoup de choses qui les séparent, ce sont deux hommes du livre, vraiment, à plein de titres d'ailleurs. Mais Claudel pose tout de suite la question à Gide, qui l'entend, mais qui ne s'en préoccupe pas plus. Et le génie de Gaston, ça va être de Gaston Gallimard à partir de la Première Guerre mondiale. Il va être plus autonome par rapport à l'activité de la maison. Il va voir que le pari n'est tenable que dans la mesure où la maison trouve les moyens de servir ce qui compte à long terme. Donc d'entrer dans la notion de politique d'auteur, d'une politique de durée, même une politique de collection, en fait, suppose une gestion très fine de la durée. Mmh. Et il faut financer cette activité, financer cette durée.
Faire de la trésorerie.
Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est là où il rentre dans la logique, dans une logique entre guillemets plus industrielle, même si ça n'a pas grand sens de parler de logique.
Le mot apparaît, moi,
mais c'est d'ailleurs, il l'écrit lui-même, dans ses correspondances intimes avec son épouse, avec ses maîtresses, etc., notamment pendant la guerre. Il revient des États-Unis où il était avec la troupe de Vieux-Colombie en disant je veux monter une entreprise très commerciale. Oui. Très commerciale, c'est le terme qu'il emploie. Il y a de la place, donc il faut la prendre. Voilà. Donc il investit, etc., et puis il diversifie.
Il investit, puis aussi, alors ce qui est étonnant, c'est que maintenant, on est un peu aussi dans le recul, on magnifie beaucoup Gallimard, c'est-à-dire qu'on a retenu le temps, a retenu les grands auteurs, tout ça. C'est vrai que quand on va chez les bouquinistes, on tombe sur des horreurs, des trucs terribles, et il y a quand même malgré tout, on se dit c'est un Gallimard, ça vaut la peine, ça coûte un euro, je vais l'acheter,
c'est terrible. Jamais.
Mais est-ce qu'il avait aussi compris qu'il pouvait faire des choses, enfin il a créé Détective, racontez-nous un peu cette autre face qui est, on n'a pas trop de scrupules finalement à faire du commercial parce que ça justifie, notre combat qui est la littérature.
On n'a aucunement honte à le faire. Il va le faire de façon. Alors, ce n'est pas uniquement une entreprise de diversification tous azimuts d'un côté littérature populaire. Il y a ça, notamment avec des premières collections de livres policiers, de romans populaires, des collections qui. Mais ça, c'est son lien avec Kessel, favoriser ça et qui va le décider à effectivement expérimenter l'activité de la presse, la presse hebdomadaire et de la grande presse populaire. Avec Détective, avec Voilà, et puis une presse plus culturelle et politique avec Marianne dans les années 20-30. C'est une diversification objective qui est cachée. Hein. Je parlais du Club du meilleur livre tout à l'heure, on retrouve un peu la même chose.
Elle n'est pas avouée comme Gallimard.
Non, enfin elle l'est indirectement. Le Club du meilleur livre était vraiment caché, masqué. C'est plus subtil avec la diversification dans le domaine de la presse, mais il y a une structure qui est créée, une structure ad hoc qui est créée pour l'exploitation de ces titres, qui s'appelle Publication Z.
On ne sait pas d'où ça vient.
On pense savoir d'où ça vient, c'est qu'il y a les projets de statut et on ne savait pas quel nom mettre, et il y a quelqu'un qui a mis Z.
Comme ça aurait pu être X.
Donc ça aurait pu être publication X.
Mais là, bon.
Ça aurait sonné un peu différemment.
Historiquement, ça aurait été.
Voilà, donc on est resté sur publication Z. Alors, ça a tenu le temps que ça a tenu. Je veux dire, Détective a eu un grand succès.
A fait gagner beaucoup d'argent.
Et a financé, a permis de financer avec des apports en compte courant, tout simplement, les activités plus littéraires et avouables, plus nobles de la maison Gallimard.
Mais alors, quand même, dans l'idée de Gaston Gallimard, c'était, malgré tout, l'important, c'est le côté noble. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment-là, ou est-ce que malgré tout...
C'est plus mitigé que ça.
Voilà, on n'arrive pas trop à savoir quelle est la part de...
Parce que c'est indistinct, c'est normal qu'on ne sache pas. Parce que quand par exemple, Gaston Gallimard se met au début des années 1920 à la quête d'auteurs pouvant faire de la vente, des ouvrages de vente, il dit. Ce qu'il préfère, écrit-il souvent, notamment à Jouhandeau, ce que je préfère, c'est les pannes. Voilà, c'est le terme officiel à l'époque. Hein, on parle des pannes de librairie. Pour autant, il lui faut des ouvrages de vente. Mais ça peut être des ouvrages de vente de qualité. Donc quand il va débaucher Kessel du Mercure de France, puisqu'il le découvre dans la revue, le Mercure, et qui lui propose de publier son premier recueil de nouvelles, quand il va chercher ou il accepte de lire puis de publier ce jeune Saint-Exupéry qu'il a, avec lequel il est entré en contact via Gide et Jean Prévost, etc., il est dans cette quête, ou même quand il publie Paul Morand, il est dans cette quête d'auteurs à succès. Mais on voit bien que ces auteurs à succès ne sont pas de l'autre côté de la littérature, ou ce n'est pas une non-littérature. C'est une littérature qui va se considérer, qui va être contestée au sein de la NRF.
Il va devoir imposer. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il va devoir imposer des auteurs?
Oui,
on a l'impression que Kessel, c'était aussi, on disait, c'était de la pas de la sous-littérature, mais il y avait chez beaucoup de gens, c'était la littérature populaire, donc c'est pas...
Il faut lire, ça va arriver bientôt en librairie, la correspondance entre Jean Paulhan et Gaston Gallimard, que Laurence Brisset a établie, qu'on va publier prochainement, qui est une correspondance très très passionnante sur le métier, précisément, de l'édition.
Parce que là, ils se disent des choses qu'ils ne disent pas ailleurs.
C'est vraiment une correspondance professionnelle, enfin amicale par beaucoup d'aspects, intime aussi, mais aussi très professionnelle. Et il y a un débat entre Gaston Gallimard et Jean Paulhan, qui incarne, au moins dans les débuts de son intervention dans la maison, c'est-à-dire dans les années 20, le lien avec les dadas.
Oui, c'est ça. Ces gens que beaucoup de gens ne voulaient pas, enfin, en train de dire,
exactement.
On n'est pas là pour accueillir ces
fous furieux. Oui, c'est rigolo, c'est dans le meilleur des cas, et c'est plutôt ces fous furieux. Donc les Aragons, les Bretons, etc. Et Crevel et d'autres. Et Paulhan, pourtant dans sa très grande ouverture d'esprit, faut le dire, et dans son côté gidien, n'accepte pas Simenon. Voilà, Simenon, c'est l'unité d'horreur.
Alors que Gide, lui, dit, c'est un écrivain, on comprend pas.
Il dit même pire que ça, il dit, c'est le plus romancier d'entre nous tous.
C'est le truc qu'on sort tout le temps quand on veut faire lire Simenon à les gens.
Mais cela dit, la correspondance l'atteste. Hein, elle est formidable, la correspondance entre Gide et Simenon. Hein, elle va très loin.
Elle est
d'ailleurs plus formidable du côté Gide que du côté Simenon.
Parce que l'autre, c'est plutôt ses chers maîtres. Il y a un côté un peu différent et un peu hypocrite.
On est bien d'accord. Mais elle est très sincère du côté de Gide. Son journal en témoigne, etc. Voilà, donc il y a ce débat-là au sein de la maison. Gaston va beaucoup en vouloir à Jean Paulhan de contester cette autorité de Simenon et surtout de publier ou de vouloir publier des notes un petit peu perfides dans la NRF sur les œuvres que publie Gaston Gallimard dans la maison d'édition. Donc voilà.
Il y a ce côté-là quand même.
Mais
il laisse quand même l'attitude pour ce qu'exprime quelque chose qui est de l'ordre de la contestation.
Complètement. Mais c'est pas une sorte de relations vont se crisper là-dessus, parce que Paulhan, lui, donc directeur de la Nouvelle Revue Française, donc de la revue, outre ses activités de lecteur et d'éditeur et de très proche conseiller de Gaston Gallimard, a donc cette NRF à tenir et son héritage critique à maintenir, et donc son autonomie à l'égard de la maison d'édition à préserver. Et pour lui, l'honneur de la revue, précisément, c'est de...
Et ça, vous avez le sentiment vraiment qu'il avait une véritable autonomie, que la NRF, qui est à la fois un vivier d'auteurs, une sorte de laboratoire, il a toujours réussi à la maintenir.
Du moins pour la première partie, pour la première partie la plus de son existence.
Après, ça
change un petit peu, puis surtout la position de la revue dans le monde littéraire intellectuel qui change, au-delà de sa relation avec sa tutelle éditoriale, qui est la maison Gallimard.
D'accord.
Donc tout ça est rebalayé et recomposé, et on ne sait plus si c'est la revue qui participe à la naissance des œuvres, à la genèse et la reconnaissance des œuvres, ou si c'est la maison d'édition qui participe au soutien de la revue. Il y a un moment où ça devient plus clair, alors que ça l'est très 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 très, très nettement
avant-guerre.
Avant-guerre et après, dans les années 50, assurément, 60, après ça devient un petit peu plus compliqué à juger. L'histoire change vraiment. C'est mon interprétation en tout cas. Dans l'autre sens, c'est vraiment un point très fort. Et il y a un débat en permanence entre Gaston Gallimard et Jean Paulhan. Et de fait, Gaston intervient très très peu dans les sommaires de la revue avant-guerre et lui laisse donc toute liberté critique et des fois, c'est pas triste. Il faut que Gaston, il rame derrière pour rattraper ses auteurs.
Parce qu'il y a le côté aussi, Gaston qui malgré tout tient les cantons de la bourse. Alors ce qui est assez étonnant, c'est l'épisode de la guerre, on va pas en faire des tonnes, qui est la sortie de la guerre, quand tout d'un coup, des grands auteurs sont un peu au purgatoire.
Oui.
Et que Gaston Gallimard va trouver une stratégie pour faire en sorte de reconstituer en quelque sorte ce réseau et se dire, à un moment ou à un autre, ça va passer.
Et ouais, voilà. Mais ça passe assez vite, de fait, parce que on voit très bien, bon, le cas très exemplaire, c'est celui de Céline. Mmh. Tout le travail que peut faire, encore une fois, Jean Paulhan.
Paulhan, dans sa collection de la Pléiade.
C'est une revue, hein, et une revue de luxe, hein, et qui vient là un peu en substitution de la NRF, qui est donc interdite, hein, de publication après guerre. Et on voit très très bien quelle est la tactique de cette espèce de réconciliation par la littérature que mène Paulhan de façon, alors là, très transparente. Ça lui vaudra d'ailleurs beaucoup d'inimitié, beaucoup de contestation.
Oui, mais il est fort en même temps de son rôle dans la résistance, et puis
oui. Voilà, enfin, c'est quand même une position courageuse à tenir et qui devient très vite problématique pour lui.
Pour lui-même.
D'accord. Et donc, il accueille Jouandeau, il accueille Monterland, tous ces gens-là, voilà, oui. ils sont publiés là. Et Céline, et toute la démarche qu'on associe d'ailleurs souvent à tort, c'est une interprétation un peu fausse du rachat qui aura lieu dans les années 50 par la maison Gallimard de Noël, oui. qui marque le début de la composition d'un groupe éditorial. Hein, là, on rentre là dans l'histoire éditoriale là, pour en parler, l'histoire d'un secteur d'activité. À la reprise du fonds de Céline et fautive, en fait. Enfin, je veux dire, la démarche est lancée dès l'immédiate après-guerre par Paulhan, essentiellement. D'ailleurs, Céline, même s'il se fâchera avec Paulhan, lui en saura toujours gré d'avoir tout fait pour lui.
En même temps, la correspondance, elle est avec. Enfin, la fameuse correspondance entre Gallimard et Céline, elle est quand même très. Céline insulte.
C'est un torrent d'injures. Mais dans l'injure, dans la folie, il y a aussi une lucidité extraordinaire sur les enjeux éditoriaux et financier,
oui, sur le poids, sur ce que pèse un auteur et sur ce que pèse sa postérité.
Et sur ce qu'il pèse lui-même. Voilà. Je veux dire, cette insistance folle de Céline, enfin, qui n'est pas folle d'ailleurs, qui est parfaitement justifiée, on le sait aujourd'hui, personne, enfin, peu en tout cas, dirait le contraire aujourd'hui, cette insistance folle pour être publiée de son vivant dans la Pléiade, je veux dire, elle n'est pas, c'est un peu plus qu'une lubie, enfin, je veux dire, c'est l'expression aussi d'une forte conscience de ce qu'il a représenté, lui, son œuvre. Ouais. Hein, donc, ça, c'est. Voilà, ils vont orchestrer ça et ça aboutira en 1952 au rachat des droits de l'œuvre de Céline à Céline lui-même, puisqu'il les a recouvrés par la défaillance en fait de son éditeur. Quoi,
et alors, est-ce qu'il n'y a pas une chose un peu particulière chez Gallimard qui donne le sentiment que c'est toujours un peu ça, oui. Qui est que finalement Gallimard, il lui arrive de louper des auteurs, mais d'une façon ou d'une autre, il les récupère. Ouais. Alors il y a toujours le truc, on revient toujours sur Proust, Gide battant sa coulpe en disant c'est ma faute. Ouais. Vous avez tout tendance à dire que c'est Schlumberger d'ailleurs.
Oui, c'est planté. Et que
Gide héroïque a assumé l'erreur.
Et Gide adore ce type de situation.
Ah oui, d'accord.
C'est vraiment. Enfin, c'est du pain béni pour lui. C'est idéal.
Ça, vous le dites pas.
Non, mais c'est idéal, je le laisse entendre.
Donc il y a cet aspect-là aussi, c'est pareil, c'est de Noël qui découvre Céline. Est-ce qu'il n'y a pas toujours, alors ça ce n'est pas un fil conducteur quand même chez Gallimard, qui est, bon, somme toute on est à la maison qui sera la dernière demeure. On aimerait bien que ce soit la première,
joli,
mais c'est aussi
une très jolie expression.
C'est aussi, voilà, le mausolée il sera chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas toujours ça chez
Gallimard ? Est-ce qu'on est au service de la métamorphose, comme dirait Malraux. Et la dernière demeure, c'est la Pléiade où les œuvres sont toujours vivantes.
Voilà. Mais il y a quand même cet aspect-là.
Oui, non, mais il y a cet aspect-là.
On représente l'éternité, les trois lettres, c'est un peu ça. Mais en même temps, il y a des ratés. Enfin, je veux dire, on loupe des trucs.
Il y a des ratés, il y a des refus, déjà. Enfin, il y a plusieurs. Il faut quand même distinguer, parce qu'il y a des refus. Alors, Proust en est un, manifeste. Bon, il faut le resituer dans le contexte. 1912, la maison a un an d'existence quand même. Hein. Elle reçoit cette masse qui représente les premiers états de la recherche du temps perdu.
Alors Gallimard n'est pas très influent, mais Gallimard il connaissait. Enfin, Proust connaissait le petit Gallimard. Il les croyait sur la plage.
Il connaissait très bien, oui.
Il y avait ce côté-là. Enfin, comment ça se fait que ce truc-là pourchasse Gallimard toute sa vie avec cette idée que j'ai loupé Proust.
C'était le premier grand traumatisme de la maison. Ouais. Voilà.
Et après, on va même racheter le fond de Grasset en enlevant les couvertures pour mettre ses propres couvertures.
Ouais, c'est absolument prodigieux. On voit effectivement ces exemplaires avec recouvrure Gallimard. Il y en a environ 200. 200 hein, ouais, c'est ça. Ouais. et dont la page de titre, ils ont caché, ils ont mis un petit papillon, ils ont caché la mention édition Bernard Grasset, mais ils ont oublié de cacher le monogramme, la marque Grasset. Donc on se retrouve avec une page de titre à double marque. Enfin, c'est un drame pour les indexeurs, parce que voilà, quel est l'éditeur ? C'est l'un, c'est l'autre, on ne sait pas. Voilà, donc, c'est le cas. Voilà, et Gaston Gallimard va être, d'ailleurs, on le voit bien dans sa correspondance avec Proust, qu'a édité Pascal Fouché. On voit très bien que Gaston Gallimard s'en voudra personnellement de ne pas avoir eu la force d'imposer Proust. Hein.
Et Proust lui fera bien sentir quand même.
Oui, tout à fait.
À chaque occasion, il lui en balance une quand même.
Dès qu'il peut. Voilà. Mais il est aussi très injuste, hein, Proust. C'est un auteur très injuste, hein, très dur, très ingrat.
Il y a des auteurs qui ne sont pas injustes.
Ah,
enfin,
oui.
vous en avez remarqué en dépouillant les archives.
Ah, oui.
Il y a des auteurs qui sont heureux d'être. Qui ont le sentiment d'être bien traités chez Gallimard.
Oui, mais ceux-là, le dossier est très mince.
D'accord.
Et l'œuvre immense.
Un sentiment qu'ils ont beau chez Gallimard et donc d'être parvenus à quelque chose, ils ont malgré tout souvent le sentiment d'être maltraités.
D'être maltraités, de
ne pas être à la hauteur.
Là, c'est toute la difficulté d'un éditeur à Gaston Gallimard. Essaie de le justifier, puis Claude essaiera de le justifier, Antoine aujourd'hui d'ailleurs, tant qu'il peut. C'est toute la difficulté d'être un éditeur avec un fond aussi colossal. C'est-à-dire que. Quand vous vous consacrez à l'un, vous vous consacrez un peu moins à l'autre. Il y a une lettre formidable de Michaud se plaignant à Gaston Gallimard que la nuit remue, attend et n'est toujours pas. Enfin, il n'a toujours pas reçu les épreuves. Il dit mais quel autre chef-d'œuvre peut justifier que mon livre soit en retard, quoi. Bah oui, certes. Mais qui souligne qui répond.
En même temps, on a l'impression que les Gallimard courent en permanence en train de devoir se justifier, d'empêcher que le navire prenne l'eau.
Exactement.
Et pourtant, le navire continue, n'arrête pas même de grossir, dans le métaphore. Mais enfin, ça ne cesse jamais de grossir. En même temps, il faut en permanence colmater
cet effet-là. Pour en venir à cette histoire, donc il y a des refus nets, Proust en est un, et il est assumé, et Gaston Gallimard, et surtout vraiment Jacques Rivière, c'est quand même une des très très grandes figures lumineuses de cette histoire, lumineuse par son talent critique, et puis par la part qu'il a, enfin je veux dire la grande aventure de Rivière, je dirais c'est l'aventure proustienne, et d'ailleurs Gilles lui en voudra, on lui en voudra justement d'avoir confondu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui par facilité la notion de classicisme moderne avec l'œuvre proustienne, en disant attention Rivière, vous êtes l'homme d'un, vous ne pouvez pas étant la NRF être l'éditeur d'un seul homme. Méfiez-vous, vous vous égarez. Voilà. Et là, je caricature, mais c'est très présent dans la correspondance Rivière-Proust, Rivière-Gide. Pour autant, Proust, Tirac, Rivière est son premier lecteur, le premier qui l'ait compris. Et il aura un rôle décisif dans le retour, puis la fidélisation, entre guillemets, de Proust au sein de la maison, de même que Gaston Gallimard pendant la guerre. Et donc de l'histoire de cette reprise de Proust à Grasset. Après, bon, vous citiez Céline, c'est un petit peu différent. Céline, c'est pas un refus, c'est un retard.
Voilà, c'est-à-dire
l'œuvre est embarrassante, on souhaiterait refaire travailler Céline, on tarde à lui dire, c'est trop tard, il a déjà signé avec De Noël.
Sauf que c'est Maseline qui a le prix Goncourt.
C'est
l'auteur Gallimard qui l'a. Enfin, comme si en même temps il y avait une sorte de petit pied de nez, quoi.
C'est vrai. Mais peut-être si. La question, ce que ne dit pas l'histoire, il faut pouvoir la réécrire, c'est si Céline aurait eu le prix Goncourt s'il avait été publié chez Gallimard.
C'est Gallimard,
voilà.
Alors qu'est-ce qui, selon vous, peut distinguer justement Gallimard?
Enfin bon, il y a d'autres histoires comme ça. Hein, je veux dire, voilà, on peut les décliner. Il y a Yourcenar,
Ce souci, on se rappelle toujours des mêmes. Enfin après, il y a eu.
Il y a Grac, il y a.
Ah oui, Grac a été. Oui, mais Grac a été carrément.
Mais il a été refusé. Oui, mais il a été refusé. Grac a été refusé par la maison. Bon, voilà, la fiche de lecture qui est d'ailleurs exposée à la Bibliothèque nationale de Crémieux, si mes souvenirs sont bons, voilà, elle est sans appel. Hein. Bon, voilà. Refusé Julien Grac.
Oui. Enfin, tous ceux qui sont édités ailleurs et qui ont réussi ailleurs, en somme, tout était refusé. Enfin, pas Mauriac, par exemple. Comment on explique que Mauriac soit pas un auteur Gallimard, par exemple?
Ça, c'est un peu plus.
Il est dans la Pléiade, bien entendu. Donc,
oui, mais, ça, mais son entrée dans la Pléiade n'a pas été. Il a tout fait, d'ailleurs, pour entrer dans la Pléiade, puisqu'on avait. C'est une des choses que j'ai. Enfin, non pas découvert, mais qui m'est apparue en travaillant un peu justement sur son entrée dans la Pléiade. Il y a eu cet affrontement très violent après-guerre, ce qu'on appelait la guerre des revues. l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, entre la NRF renaissante en 1953, la table ronde qui était complètement pilotée, d'une certaine façon, qui était l'arme, d'une certaine façon, de Bauriac, et puis d'autres revues. Et c'est dans cette table ronde et dans ces premières chroniques qui s'appellent les bloc-notes, quoi, hein, que Bauriac va s'attaquer très violemment à la NRF en disant cette vieille dame tendue, etc., cette NRF de Drieux, enfin voilà, mais très très lourd. Et ça, ouais. Gaston Gallimard, lui, en voudra toujours, toujours. Eh bien, pour favoriser son entrée dans la Pléiade, Bauriac, quand il va publier en volume le bloc-notes, va retirer ces textes-là.
Ah oui, parce que c'est ça.
Les premiers textes du bloc-notes. Hein, ouais. C'est les tout premiers textes. Hein, et il va les retirer. Et alors même qu'il est en train de discuter de son entrée dans la Pléiade. Vous voyez, il y a quand même un pouvoir d'attraction extraordinaire de la collection vis-à-vis d'auteurs comme Bauriac. Bon, après, l'absence de Bauriac, au fond, enfin, dès les débuts, je saurais pas dire...
C'est un auteur Grasset. Mais... Alors, justement, qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre un Gaston Gallimard et un Bernard Grasset ou un Robert de Noël? Qu'est-ce qui a pu être différent? Bernard Grasset, il a inventé un peu l'édition moderne, le marketing, les publicités à la fin des livres, enfin un côté très offensif. Et somme toute, ça existe toujours, mais on a l'impression que la maison existe toujours, elle n'est plus du tout
comme
Grasset.
Comme on dit aujourd'hui, il y a un côté conception d'offres chez Grasset. C'est-à-dire on fait des collections, les 4M, en prenant la lettre initiale de 4 auteurs, dont Mauroy, Bauriac, Monterland, et puis je ne sais jamais si Malraux est dedans ou si c'est...
Malraux, il y a été, enfin il a été.
Je ne sais pas s'il fait partie. Il y en a un cinquième dont le nom m'échappe là, mais voilà. Enfin bon, mais les 4M, cette collection-là, elle a été conçue, voilà, avec ce souci d'associer de façon un petit peu artificielle des jeunes auteurs de la nouvelle génération.
C'est du marketing. C'est
du marketing. Cela dit, quand on regarde les publicités des éditions de la NRF dans les années 20 ou 30, dans les magazines dont on a parlé notamment, on voit que tout ça est très, pardon du terme, très marketé. Hein.
Ah oui,
Et y compris du côté Gallimard. Donc, ce côté-là, c'est vrai, est important. Et je pense, si on comparait, si on était en situation de comparer les pourcentages sur le compte d'exploitation d'un livre à l'époque de la part publicitaire, il est probable qu'elle ait été plus élevée côté Grasset que côté Gallimard. Ouais. C'est possible. Mais c'est peut-être un petit peu... Voilà, faut peut-être un peu se méfier de cette approche-là. Moi, je trouve que Grasset et Gallimard sont très proches. Très simplement, ils sont très proches dans les années 20-30 et leur tactique est très très proche. Leurs auteurs sont les passent de l'un à l'autre de façon.
Mais pourquoi le font Grasset ?
Et d'ailleurs,
ils n'étaient pas aussi prestigieux. Enfin, et somme toute, on se rend compte qu'il n'est pas très riche, quoi. Comment expliquer ? Est-ce qu'il y a une explication ? Ou est-ce que je ne sais pas ? Est-ce que Gallimard a senti ce qui allait survivre ? Ou alors il était bien entouré, qui fait que somme toute le fond Gallimard de l'époque semble avoir mieux vécu que le fond Grasset. Enfin, on voit les cahiers rouges, on aime bien les cahiers rouges, c'est mignon, on se rend compte que c'est assez dérisoire
ce
qu'ils ont pu faire. Comment expliquer alors?
Non, mais parce qu'il y a un dispositif, me semble-t-il, beaucoup plus large, un dispositif éditorial et littéraire, et critique, beaucoup plus actif, beaucoup plus à l'œuvre, alors là, typiquement, au service de la composition d'un fond, beaucoup plus tôt. La création du comité de lecture de Gallimard, c'est 1925, avec une très, très, une activité très, très importante. Donc il y a un dispositif peut-être plus puissant.
Des oreilles plus grandes.
Exactement. Des figures plus, les Grotuizen, les Ramon Fernandez, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, les Benjamin Crémieux que j'ai évoqués, et les Paulhan, bien sûr. Tous ces gens-là ont été très, et bien d'autres, ont été très présents très tôt. Et voilà, avec de très grandes oreilles, comme vous dites. Et
puis la revue qui était aussi très, très importante d'attirer des gens.
On le voit de façon en plus très subtile, et même à l'égard de la concurrence. Toute l'histoire des relations entre Malraux et la maison se joue dans ces premières années, avant que Malraux n'entre véritablement dans le fond Gallimard avec la condition humaine, enfin qui marque sa véritable entrée dans le fond de la maison. Tout ça se passe, toute son histoire éditoriale se passe a priori chez Grasset, sauf que. Il y a une débauche d'énergie côté NRF et côté Paulhan pour soutenir, promouvoir l'œuvre de Malraux chez Grasset. et avec une idée derrière, qui est évidente, qui est manifeste, de le récupérer un jour.
Alors, on le fait. Un ascétisme pour le récupérer le jour venu.
Exactement, et de faire mûrir cette œuvre, de lui assurer sa reconnaissance, de la soutenir, et puis ça se termine, ça recommence par la condition humaine, prix Goncourt. Voilà. Et c'est comme ça se passe. Et sachant que Malraux est déjà salarié de la maison depuis 3 ou 4 ans auparavant, comme directeur artistique, comme membre du comité de lecture, parmi les grandes oreilles, même si c'est pas très joli de le dire ainsi, mais enfin, c'est Malraux. Malraux, à partir de son entrée dans la maison, c'est-à-dire fin des années 20, va être suractif au sein du comité de lecture, faisant créer à Gaston Gallimard une collection d'essais, créant la collection du monde entier, qui à l'origine, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui doit être quelque part par là, c'était la façon de désigner les tirages de tête, donc les tirages beau papier, les tirages de tête de la collection blanche, mais dans le domaine étranger. Mm-hmm. Voilà. Donc
Numérotés, etc.
C'était les tirages de tête de la blanche étranger et de la collection blanche. Et puis c'est devenu, ça a pris son autonomie bien plus tard, et c'est du monde entier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça c'est Malraux, hein. C'est Malraux, et c'est Malraux poussant l'œuvre de Faulkner. Il y a un dispositif qui est...
Alors, vous évoquez le comité de lecture. C'est curieux, comme Gallimard a une tendance à susciter le fantasme, quand même. Le comité de lecture est un énorme fantasme dans le monde littéraire. C'est secret. Alors, il y a le fameux livre qu'avait fait Michel Deguy, il y a 25 ans, chez Champvallon, qui voulait un peu trahir les secrets, qui se répand plutôt de façon un peu étrange, en train de nous dire que... Enfin bon, on ne découvre rien, mais une sorte d'amertume terrible d'un grand poète qui se rend compte qu'il a été évincé. Mais il laisse entendre...
C'était la suite, résultante d'un conflit majeur entre Michel Deguy et la maison.
Et qui dit en même temps, c'est de la maison du non-dit, j'ai été viré du comité de lecture sans même le savoir. Ouais. C'est-à-dire un jour, on ne m'a plus invité aux réunions, j'ai demandé, on m'a dit non, vous n'y êtes plus, j'ai la secrétaire qui me l'a dit. Ce fantasme du comité de lecture...
C'est une maison dure.
Mais qui donne le sentiment que ça existe toujours. Est-ce que c'est pas aussi, est-ce que c'est pas très propre à Gallimard ? Ou alors, vous savez qu'il y en a un chez Grasset, mais on a le sentiment que ce comité de lecture est une sorte de politburo terrible qui décide du destin des uns et des autres sans qu'on en sache rien.
Encore.
On ne sait pas qui a décidé. Et en même temps, c'est le père Gallimard qui décide.
Ouais. Encore une fois, c'est pas si net que ça. Effectivement, il y a un fonctionnement interne du comité de lecture. Je veux dire, c'est pas une instance où il se passe rien, où les gens se regardent et on prend un café pour discuter. C'est un endroit où il y a une véritable. Peut-être pas parler de débat ou de débat contradictoire. C'est pas vraiment.
C'est pas du tout le sentiment.
Chacun pense voilà. Sauf que le débat contradictoire, il se fait par le biais de lectures successives. Ouais. Et là, il y a un débat contradictoire.
D'accord.
De lecture à lecture. Mmh. Et effectivement, la prise de décision. Quand on voit que la prise de décision. Effectivement, qui n'est dû qu'à Gaston Gallimard, puis Claude, puis Antoine Gallimard, résulte de ces couches sédimentaires de lecture où on joue sur les 1 quart, les 1 quart, les 1 demi, les 1 3 quart pour noter la notation, pour noter et évaluer les.
Et ça existe toujours, on est d'accord.
Ah oui,
ça existe. Donc ça veut dire que c'est une méthode qui doit être d'une efficacité.
Voilà. Alors... Mais ça ne se limite pas à ça. Je veux dire, quand Céline écrit à Gaston Gallimard, sortez-moi pas vos comités, etc., la décision c'est vous. Je veux dire, là encore une fois, lucidité géniale de Céline, c'est-à-dire qu'il a tout à fait compris, c'est-à-dire qu'il y a une partie effectivement qui se joue au comité de lecture, il y a toute une activité autre où s'exprime aussi le choix éditorial, où elle se met en œuvre, qui est l'activité hors comité
les débauchages,
au secrétariat éditorial assez large, élargi. Des Gallimard. Et ça, c'est présent dès les années 20. Ça fonctionne à plein. Ça énerve énormément un certain nombre de personnes qui croient avoir le pouvoir et l'unique pouvoir chez Gallimard, ce qui n'est jamais le cas. Il faut le savoir. C'est la donnée de base de la fonctionnement de cette maison. Pouvoir extrêmement déconcentré et diffus.
Diffus, mais on sait qu'il a quand même.
Oui. Non, mais je veux dire, qui signe les contrats, on le sait. On est bien d'accord. Tout ça vient, tout le travail et les jeux d'influence qui peuvent aboutir à cette signature, c'est très complexe, très diffus, très distribué. Voilà. Mmh. Et ça, et c'est distribué dans plusieurs instances, dont le comité de lecture, qui a un rôle central, qui a eu peut-être un rôle encore plus central qu'il a aujourd'hui. Mais quand Queneau, qui a été le chef du comité de lecture, hein, dans les années 50, décrit, fait, il s'amuse, c'est le côté statisticien et mathématicien de Queneau, fait un petit, une petite note où il prend toute l'activité éditoriale d'une année et il estime, voilà, alors il y a tant de manuscrits qui sont arrivés, il y en a tant qui sont passés par le comité, parmi ceux-là, il y en a tant qui ont été acceptés ou pas. On voit très très bien que cette activité éditoriale, cette activité du choix éditorial est diffuse.
Est diffuse, ouais. Voilà. Donc,
ce qui participe du secret.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, donc, même voilà. Si celui qui a sa, c'est son oreille au comité de lecture, parce que les choses se savent et les gens parlent, etc., c'est un petit monde, l'édition parisienne, enfin ça l'était a fortiori, ça l'est encore, donc les choses se savent.
Oui, ça se savait, en même temps on ne sait pas qui. À chaque fois, on
ne sait pas
qui.
Ouais.
Alors, Gallimard, c'est aussi une histoire de famille. On parlait de Grasset, de Noël, tout ça, ce n'est pas des histoires de famille. Gallimard, c'est aussi un clan. Alors, quand on lit un éditeur à l'œuvre, enfin, ouais. Il y a des Gallimard partout. Vous avez même fait un arbre généalogique.
C'est vrai.
Le problème, c'est qu'on a un peu de mal à se rappeler qui est qui. Et voilà. Tu dis, bon, heureusement, il y en a qui meurent de temps en temps, mais il y en a qui vivent très longtemps. Alors, on dit, il y en a encore, le cousin. Voilà, c'est drôle parce que quand on voit chez les Mola, c'est différent parce qu'il y en a qu'un par génération.
C'est simple, c'est beaucoup plus simple chez voilà. Les Mola, me semble-t-il.
Mais alors, il y a quand même ce côté familial, il y a un côté roman familial chez Gallimard.
Oui,
et on a le sentiment, vous tournez un peu autour quand même.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que le romancier qui doit y avoir en vous, comme chez chacun. Sans qu'il y a des histoires, des choses à raconter.
Il y aurait beaucoup d'histoires.
Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de choses à ne pas dire. Hein. Et vous dites une chose assez étonnante, qui est quand même, il y a eu des moments où on était au bord du clash entre les frères,
ouais.
Avec les cousins,
ouais. Ouais.
Et que par exemple la mort de Camus,
ouais.
La mort de Camus est arrivée à point aussi parce qu'elle a tué un Gallimard en même temps et qu'on pouvait plus déchirer après ce qui s'était passé.
Alors je le dis pas tout à fait vous avez bien lu.
Non mais on est passé pas loin des moments où l'explosion pouvait vraiment être là.
Ah ben c'est-à-dire que voilà, ça,
des gens que le grand public ne connaissait pas.
C'est une certitude. Il y a un moment de tension très très forte qui est classique dans toutes les vies d'entreprise, et notamment a fortiori familiale. C'est le problème de la succession,
la
transmission du capital et la transmission du management, de la responsabilité de l'activité de l'entreprise. Alors, la transmission du capital, elle n'est pas trop problématique de la première à la deuxième génération. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est entre la génération de Gaston Gallimard, qui a demandé à son frère de le rejoindre, et donc ils ont cofinancé avec un de leurs amis la mise en montée en puissance de la maison d'édition.
En évinçant un peu les autres.
En évinçant très clairement les autres, Gide et Schlumberger notamment. Et donc, ça, c'est un premier. Donc, le problème capitalistique et la transmission du capital est pas véritablement un problème de la première à la deuxième génération. Le problème se pose de savoir qui va vraiment succéder à Gaston Gallimard, qui est le vrai patron. C'est l'âme de cette maison, clairement. Et là, il y a un combat entre les deux fils de Gaston et Raymond, qui sont Claude et Michel Gallimard. Michel étant le grand ami de Camus, effectivement. Et là, il y a un combat terrible. Il se joue dès avant-guerre, d'ailleurs, dès la fin des années 30, où Claude commence à s'inquiéter de la proximité des cousins, sachant qu'ils ont tous vécu ensemble dans la maison, dans l'appartement.
Ah oui,
toute la famille habite rue Saint-Lazare dans le même immeuble, donc forcément, ça crée des liens et ça crée quelques problèmes. Quand on sait en plus la vie extra-conjugale extrêmement active de Gaston Gallimard.
Enfin, on n'en sait rien.
Parce que
ça, on le lit nulle part.
Ouais,
il y a juste l'histoire du bordel qui était en face, mais.
Quand même, ouais. je
oui.
Il y a Valentine Tessier.
Oui, voilà. Il dit de façon très pudique.
Ouais, c'est
la rencontre
dans le sujet.
Mais c'est un aspect important quand même.
C'est un aspect important. Mais je veux dire, Valentine Tessier, pour ne citer qu'elle, qui était ses actrices, voilà, n'a pas jamais pris part à l'activité de cette maison.
On scindait quand même le capital, l'industrie.
Pour une part, oui. Pour une part, mais même si c'est plus compliqué que ça, et que nous, d'ailleurs, on parle très directement dans ces journaux qu'on a pu.
Non, mais on n'a jamais vu de bâtard réapparaître ou de choses comme ça. Dans une série, normalement, dans une série à la télévision.
Oui.
Il faudrait qu'il y en ait un qui surgisse en disant je suis le fils de Gaston et voilà. Il y a quand même malgré tout toujours le sentiment qu'on contrôlait.
c'est vrai. Oui.
On savait où ça allait et que malgré tout on se battrait entre nous.
Mais
bon. On a le sentiment.
Et donc, là on arrive juste pour finir en deux mots. Il y a dans les années fin des années 50 à une tension forte où on craint vraiment une scission. On est au bord de la scission de la maison. C'est-à-dire pas tant sa scission mais sa scission entre l'activité littéraire, je dirais pour faire court, parce que c'est courante de la maison qui serait laissée à Gaston Gallimard et à son fils Claude, Et, chose étonnante, dans la Pléiade et l'activité de Livrolier, plus généralement, et de Boli, on va dire, à Raymond et à son fils Michel.
Ouais,
sachant qu'à l'époque, la Pléiade, c'est une machine à faire de l'argent. Ça commence à être une machine à faire de l'argent. Ouais. Ça sera vrai dans les années 50-60, puis après, ça sera un peu plus compliqué. La collection trouvera un équilibre différent. Mais c'est vrai que c'est une période de très grande croissance de la collection. Et je veux dire, c'est un risque majeur. Et effectivement, il y a une intervention assez étonnante, d'ailleurs, de Jean Schlumberger, qui appelait là comme un grand sage, et qui essaie de concilier les deux parties de la famille pour leur dire, attendez, vous êtes en train de flinguer la maison. Vous êtes en train de casser ce qu'il y a de vertueux dans le montage. À un moment, au moment précis, et là, Schlumberger voit très, très juste, où le pari de Gaston est tenu. On est dans les années 50, c'est le livre de poche. Le fonds Gallimard nourrit le livre de poche. On a donné des chiffres de vente. Certainement noté en fin du catalogue l'évolution décennie par décennie. On voit très très bien que le fonds Gallimard, ça commence vraiment à avoir un sens dans les années 50. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où le livre de poche existe, où les volumes commencent à augmenter, puis ce sera d'autant plus vrai après avec Folio, etc. Donc c'est au moment où la notion de fonds, et donc où le pari, où la littérature se finance elle-même.
Oui, c'est
ça. D'avoir autant recours, n'est pas, même s'il y a la série noire, etc. Mais la série noire, c'est aussi la littérature. Enfin bon, donc,
oui, c'est pas le mauvais genre.
C'est pas absolu. Voilà. Mais c'est vraiment le pire moment pour le faire. Ça veut dire vous mettez en péril l'autonomie et l'indépendance de la maison. Voilà. Et effectivement, la mort accidentelle de Michel Gallimard avec son ami Albert Camus au début de l'année 60 met un terme à une querelle familiale majeure.
Mais vous nous affirmez là devant 15 personnes, que ce n'est pas un crime.
Ah non, ça c'est certes pas un crime. Ça, non.
Mais alors, on a le sentiment malgré tout que
parce que c'est un drame
en montage.
Attention, ça a été un drame familial.
Oui, j'imagine.
Un traumatisme familial. Là, il y avait une grande proximité de Claude. Enfin, je veux dire, au-delà du conflit sur les affaires, ces deux cousins qui ont vécu leur enfance ensemble. Voilà, enfin, je veux dire, ce sont des.
Oui, on a le sentiment que vous racontez qu'après, il y a une sorte de période un peu de deuil.
Oui, il y a une période de deuil, oui, très clairement.
Mais on a le sentiment quand même, c'est les crises qui ont aussi fait progresser la maison.
Oui.
Ce sentiment que, d'une façon ou d'une autre, c'est ça qui va les obliger à avancer, continuer à avancer.
Oui.
Alors, vous parlez beaucoup. Alors, il y a des articles très très pointus dans le catalogue, notamment sur tout ce qui est distribution, etc. Tout le combat avec Hachette, qui est quand même là aussi serait presque un roman, pas familial mais industriel. On est très proche de la pieuvre, mais en même temps, il faut qu'on arrive à s'en détacher. Et la grande aventure, c'est somme toute quitter Hachette. Alors, c'est vrai que c'est un peu pour le profane, c'est un peu compliqué.
Oui, mais ça s'explique très facilement. Et puis, ça concerne tout le monde parce que c'est l'enjeu du lien entre la distribution. Et l'édition, et donc la création. Voilà. Donc, ça, je veux dire, c'est un thème d'intérêt général pour moi,
c'est ça.
Hein. Je veux dire, c'est peut-être un peu technique dans le détail, mais je veux dire, au fond, c'est jusqu'à quel point le commerce tient la création. Enfin, je veux dire, pour faire très court. Hein. Mm-hmm. sachant que les deux sont intimement liés, et Gaston Gallimard était le premier à le dire. Voilà. Donc, c'est lui qui a choisi de confier sa distribution et sa diffusion pour faire. Faire simple, la diffusion, ce sont les équipes de vente, c'est le lien direct avec les libraires, et la distribution, c'est le côté logistique, la fourniture des livres, le transport, etc. Faire court. C'est lui qui a confié cette fonction-là de son entreprise au début des années 30 aux messageries Hachette.
Voilà. Qui était toute puissante à l'époque.
Dans
les gares, enfin partout.
Avant, il s'auto-diffusait, il s'auto-distribuait.
Monsieur Tronche qui faisait le...
Voilà, Monsieur Tronche, exactement.
Avec un nom pareil.
et Monsieur Hirsch, ensuite. Ouais. Et voilà, donc ils géraient ça eux-mêmes. Sauf que l'activité de la maison était devenue telle que c'est devenu compliqué, et que Hachette a proposé à Gallimard, qui était devenu, ces éditions de la NRF, un enjeu stratégique pour Hachette, parce que c'était déjà un fonds reconnu, une maison qui avait trouvé son importance et sa dimension. Hachette a fait un contrat extraordinaire pour Gaston Gallimard, lui offrant des facilités trésorerie et diminuant le risque éditorial intrinsèque à son activité de façon extraordinaire. Bon. Donc ça a été un des moyens, à côté de l'édition populaire dont je parlais tout à l'heure, pour financer l'activité éditoriale de cette maison. Voilà. Ça faisait partie du dispositif que cherchait à mettre en place Gaston pour financer son activité. Ça a tenu le temps que ça a tenu, c'était jusqu'à la fin des années 60. Qu'est-ce qui s'est dégradé au fond ? Ce qui s'est passé, assez simplement, au-delà des frictions qui peuvent se produire entre de clients à fournisseurs, mais qui sont traditionnelles, c'est qu'il y a eu un début d'hégémonisme éditorial d'Hachette, avec des rachats de maisons, dont Grasset, Fasquelle et d'autres, qui mettaient en péril et inquiétaient, je dirais, les Gallimard. Notamment, il y a un point qu'on dit souvent, c'est parce qu'ils étaient concurrents au plan éditorial. Oui, mais c'est plus précis que ça. C'est-à-dire que ce que craignaient les Gallimard, vraiment prioritairement, c'est qu'en librairie, les équipes de vente
privilégient
les titres Hachette, parce que plus rentable aux yeux des... Voilà, que par rapport au titre Gallimard, sur lequel, effectivement, ils avaient une rentabilité moindre.
Il aurait même demandé de supprimer deux maisons d'édition, quand même. Que le stock ne fasse plus de littérature. Enfin, c'est des contrats totalement aberrants. Si vous avez trop d'éditeurs de littérature, vous en supprimez.
Exactement. Mais il y a eu une ambiguïté dans les années 50, quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un partage du monde entre les deux groupes. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu des espèces d'accords, verbaux, mais il y a des échanges, on les cite d'ailleurs dans le catalogue notamment, et je l'évoque dans le Découverte, où Hachette dit il y a un pacte de don d'agression. Voilà. Et s'il y a une maison littéraire que j'intègre dans mon capital Hachette, je t'en céderai la moitié. Je te proposerais de venir avec moi et de t'en céder la moitié. Comme ça, on y va tous ensemble et on contrôle l'édition littéraire. Voilà. Et ça, évidemment, pour les Gallimard, c'est très tentant. Mais c'est jouer, c'est jouer avec le diable, quoi. Voilà. Et ils finiront par ne plus jouer le jeu. Et les relations iront en se dégradant. Le contrat aussi, d'ailleurs, de moins en moins favorable à Gallimard au fur et à mesure de sa négociation, ce qui est classique. Et jusqu'à la rupture, effectivement, dans les années début des années 70, qui est le grand moment, c'est pas l'entrée en scène, mais c'est un des grands moments de la carrière de Claude Gallimard, donc le fils de...
Oui, c'est ça. Alors, on parle beaucoup de Gaston, qui est mort à 94 ans, quand même, pour un fils...
75.
Supporter son père, il était PDG quasiment jusqu'au bout, jusqu'à 6 mois après sa mort. Ouais. Comment situer ce personnage de Claude, qui est un type un peu particulier, qui a le sentiment qu'il a des idées, il est peut-être un peu en avance aussi, mais qu'il est somme toute dans l'ombre du père. Vous situez ce personnage? On a l'impression que Gallimard est en train d'essayer de le réhabiliter en ce moment.
C'est pas faux, d'ailleurs on...
On ne parle pas assez de Claude, il y a Gaston, et puis Claude on a un peu sauté.
On va publier un hommage à Claude Gallimard, de lettres choisies, reçues et adressées par Claude à ses auteurs. C'est vrai que le personnage de Claude, il est dans l'ombre quand même de Gaston, parce que c'est vrai que jusque dans les années 50, même 60, on voit la correspondance avec Céline, mais avec d'autres. Gaston Gallimard est très... avec Claudel, etc. Gaston continue à suivre les auteurs, même s'il confie petit à petit les rênes à son fils dans les années 50 et 60. Et pour Claude, ça n'a pas dû être toujours facile à vivre. Mais les relations et les publications de correspondance le montreront. Claude a très tôt des relations avec des auteurs, il les suit. J'évoquais Yourcenar, j'évoquais Monterland, par exemple. Le retour de Monterland dans le fond Gallimard, c'est Claude. C'est lui qui suit. Par exemple, le vrai démarrage de la série Noire en 1948, puisque la série Noire est créée en 1945, mais de façon très timide au début. C'est plutôt Michel d'ailleurs qui s'en occupe avec Marcel Duhamel, mais c'est très timide. Puis il y a un coup d'accélérateur qui est donné en 48, où vraiment la série Noire c'est telle qu'on l'a connue avec nombreuses publications, des gros tirages, etc. Donc ça, c'est Claude Gallimard. Donc en fait, il est alors lui également à l'œuvre très tôt, mais un peu dans l'ombre de son père, parce qu'au fond, effectivement, on ne sait pas comment ça se passe de l'intérieur, quoi. C'est toujours ça. Donc, effectivement, on a l'impression, vu de l'intérieur, c'est la maison de Gaston, quoi. Monsieur Gaston.
Ça a toujours été un peu ça, quand même.
Voilà, c'est la maison de Monsieur Gaston. Sauf que dans la réalité, quand vous regardez la réalité des dossiers, notamment commerciaux, d'ailleurs, Gaston lui dit, c'est toi qui as fait, on en cite quelques extraits de leur correspondance, c'est toi qui as fait cette maison telle qu'elle est aujourd'hui, c'est toi qui lui as fait. La relation avec les auteurs importants, c'est toi, la relation avec les membres du jury, c'est toi, la relation avec le contrat Hachette, c'est toi, la pacification des rapports avec la succession Proust, c'est toi, etc.
Mais en même temps, il doit aussi le rassurer en lui disant.
La présence de Gaston est voilà, elle est ce qu'elle est, parce que l'homme est quand même d'une dimension un peu considérable. C'est pesant pour un enfant. En plus, la relation entre Claude et son père n'a pas été simple, de par justement la vie un peu compliquée sentimentale
du père,
de la relation compliquée avec, de Claude, de la relation très, très grande progressive de Claude avec sa maman. Il y a toute une histoire personnelle qui fait que, voilà. Après, les qualités de Claude, c'est de Claude Gallimard, enfin sa participation à la maison. Bon, je pense que c'est d'une part d'avoir maintenu le cadre, d'avoir maintenu les instances en place, d'avoir continué à enrichir les dispositifs, les liens et cette proximité-là en recrutant d'autres personnes au sein de la maison. Avec son père, c'est vrai, quoi. Je vois par exemple le recrutement de Georges Lambrix à la collection Le Chemin dans les années 50, Lambrix, c'est le grand homme, de Minuit, après un passage par Grasset, mais c'est l'éditeur du Nouveau Roman d'une certaine façon, l'entrée de Lambrix dans la maison est une volonté de Gaston, quoi. C'est sûr, Gaston a été très présent. Après, le suivi de Lambrix, un peu difficile d'ailleurs, comme Gaston a été un peu dur avec Paulhan, enfin les relations n'ont pas toujours été simples entre Gaston et Paulhan, de la même façon les relations entre Claude Gallimard et Georges Lambrix n'ont pas toujours été très simples sur cette activité pour la collection Le Chemin. Ou Le Clésio,
un laboratoire quand même,
Chaillou, Perros, Reda, c'est le grand laboratoire des années 60, sur lequel la maison est encore assise.
Alors Claude, lui, il a eu son idée, c'est qu'il a fait beaucoup d'enfants quand même.
Alors il a fait beaucoup d'enfants
pour une maison comme ça.
Oui.
C'est a priori, plus on en fait, plus ça va être compliqué. Les familles, on va devoir couper.
Je pensais que vous parliez de Gallimard Jeunesse.
Non.
Parce que tout en faisant des enfants, il a aussi fait Gallimard Jeunesse.
C'est vrai que. Mais Gallimard Jeunesse, c'est aussi beaucoup Christian pour le coup.
C'est beaucoup Christian, mais Christian.
Gallimard Jeunesse, pendant longtemps, ils n'ont pas beaucoup cru.
Pas quand même. Donc les décisions financières, c'est Claude qui les prenait, c'est pas Christian qui faisait l'échec.
Donc c'est pas un hasard non plus, il faisait les enfants parce qu'il aimait les enfants.
C'est une blague. C'était pour ne pas oublier de parler de Gallimard Jeunesse.
C'est un des piliers, Le Marchand, des choses comme ça.
C'est un des piliers de la période 70-80. Alors là, c'est vraiment dans notre imaginaire, dans notre univers quotidien. C'est Découverte,
c'est Mille Soleils,
c'est vraiment notre génération, précisément. Donc du coup, ça a eu un rôle très important. Et pour faire le lien avec ce que vous dites, son fils Christian, donc son fils aîné Christian, va avoir un rôle très très important de suivi de Gallimard Jeunesse. Ça va occuper la moitié de son temps d'ailleurs, très clairement.
Il va le développer véritablement.
Il va le développer avec un éditeur de génie qui est Pierre Marchand. Ouais. Voilà, donc qui a réinventé, alors là, en s'appuyant sur les innovations des années 60, certes, qui a quand même réinventé, redessiné le visage de l'édition jeunesse dans les années 70. C'est quand même l'impulsion de Marchand est quand même considérable.
Mais c'est toujours cette idée qu'on choisit la bonne personne.
Oui, mais on a mis du temps pour la trouver, la jeunesse, parce que on cherchait le spécialiste, le professionnel dans les années 30, parce que Gaston Guémard voulait développer un...
C'était un livre qu'on essayait d'attraper depuis longtemps.
Il y a une lettre de Jean Schlumberger qui le dit très clairement dans les années 30, revenant de Pontigny, il dit « J'ai rencontré un certain Pierre Fauché qui me semble être l'homme de la situation, ce spécialiste. » Paul Fauché, c'est le créateur des albums du Père Castor. Ça serait bien qu'on le prenne, parce que c'est enfin le type qui va pouvoir nous faire un vrai département jeunesse. Raté, il part chez Flammarion. On est déjà à la recherche. Il va y avoir les Contes du Chat Perché, c'est Jacques Chiffrine, le fondateur de la Pléiade, qui va s'occuper des premiers livres pour enfants dans les années 30. Il y avait de très jolies choses. Mais il nous manque quand même l'homme clé, et l'homme clé, ça va être Pierre Marchand. Et là, ça prend une dimension tout autre, dans l'équilibre économique même du groupe, au-delà de la question éditoriale.
Et Claude, il fait quand même, c'est celui qui fait basculer aussi dans l'industriel malgré tout. Dans la période industrielle, c'est vraiment lui.
Par le fait de la reprise de la diffusion
Hachette, la création de folios, etc.
Oui.
Est-ce que c'est une vraie coupure dans la maison ou c'est vraiment une continuité de quelque chose inscrit par Gallimard, par Gaston, qui est tout d'un coup, on va gagner beaucoup d'argent, on va se situer de façon très, très risquée quand même, vous racontez.
On va prendre beaucoup de risques, surtout.
Beaucoup de risques qui est... Alors ce qui est drôle, c'est que moi je suis libraire que depuis 20 ans, mais que vous dites, enfin c'est pas vous, c'est... qui disent qu'il y a eu un traumatisme chez les libraires au début des années 70 pour dire Gallimard, ils font n'importe quoi. Pendant des années, c'est qu'est-ce que c'est que cette diffusion bancale.
Parce que c'est très complexe à mettre en œuvre. On passe d'une situation où il n'y a pas de force de vente ou à peine au sein des maisons, de la maison, et il n'y a pas de structure logistique pour gérer les envois, etc., à une structure où on crée une usine.
Ex nihilo, quand même.
Semi-ex-nihilo, parce qu'il y a de la diffusion de Noël qui est déjà. C'est quasiment ex nihilo, effectivement. Sur le site de Lagny-sur-Marne, on crée un outil de distribution, une vraie plateforme de distribution pour concurrencer celle d'Hachette, Voilà, c'est un enjeu industriel à l'échelle d'une maison comme Gallimard, qui n'est pas non plus un géant. Oui, c'est pas Hachette, très clairement.
Et vous avez le sentiment qu'il y a eu un vrai risque à ce moment-là ou pas ? Considérable. Ils ont le senti que.
Considérable. Et faut les témoins de la création de cette entreprise-là et de cette dimension industrielle, ils sont encore vivants pour la plupart. Et voilà, ils peuvent en témoigner. Ils ont sué. Ils ont vraiment sué. Il a fallu investir, une prise de risque financière et même une prise de risque industrielle parce que ça marchait pas bien au début, c'était compliqué. On louait un ordinateur avec Flammarion, des heures ordinateur avec Flammarion. Il y a une partie mécanographique, une partie manuelle. Enfin, un catalogue qui devait déjà être constitué de pas loin de 20 000 titres. C'est des millions d'exemplaires. Enfin, vous voyez, on est dans du lourd. Hein. Enfin, vous savez en tant que libraire ce que c'est.
Un petit peu.
Aujourd'hui. C'est du lourd. Donc ça l'était déjà à l'époque. Donc il y a une prise de risque. En même temps, c'était un geste salutaire. Parce que
oui, puis il y a eu le miracle, Folio qui tout d'un coup a montré que c'était une machine à gagner de l'argent. Et a montré aux libraires que c'est eux qui avaient les titres quand même.
Oui,
la révolution du poche, Gallimard l'a loupé un petit peu.
Oui.
Et s'est rattrapé assez facilement. Il
y a eu poésie, enfin bon, dans des genres un peu différents. Il y a eu poésie, puis il y a surtout eu idée. Et là, idée, ça a été quand même un succès considérable dans les années 60. C'est la première collection de poches véritablement de sciences humaines.
C'était vraiment un gros succès à l'époque,
ou
pas ?
Énorme.
Énorme,
avec une diffusion. C'est aussi le boom universitaire. Enfin, c'est toute cette période-là, et ça a été vraiment considérable, considérable. Et c'est ce qui nous a fait perdre l'écume des jours. Je l'évoque rapidement, puisqu'on a échangé d'une certaine façon l'écume des jours qui était encore dans notre fond avec les manifestes du surréalisme, mais qui ont aussi nourri idées. Donc c'était pas un si mauvais choix que ça en termes.
D'accord. Et alors, pour arriver, alors maintenant on en est à la troisième génération.
Oui.
Ça ne s'est pas fait sans mal quand même, la troisième génération.
Oui.
Alors, est-ce que c'est un tabou dans la maison d'évoquer ces histoires qui ont traversé pendant des années la presse, c'était dans la presse, du style on se déchire chez Gallimard, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y en a un qui va réussir là où les autres pensaient finalement anéantir tout ça.
À vrai dire, on sait assez bien ce qui se passe quand on lit la presse.
Ouais.
Parce que moi j'étais très frappé en travaillant plus en approfondissant un peu le sujet, de la précision de la presse et du niveau d'information de la presse sur ce qui se passait réellement intramuros. La maison secrète, soi-disant secrète.
Le fait qu'elle soit secrète fait aussi que ça a inspiré. On allait vraiment chercher pour essayer de comprendre.
En lisant la presse de l'époque, on a quand même par le détail, les différents moments de cette crise familiale qui donc correspond qui commence dans les années 80, milieu des années 80, avec le retrait de Christian.
Vous dites le retrait déjà. Est-ce que c'est un terme Gallimard ou c'est l'éviction de Christian?
Ça dépend comment
il semble avoir disparu comme ça, un truc qui était quand même un éditeur, qui avait vraiment un vrai parcours d'éditeur, de vrais résultats, qui manifestement s'est planté dans des idées.
Désaccords stratégiques avec son père.
C'est avec le père alors.
Oui, c'est avec son père. Il y a eu des accords stratégiques sur un certain nombre de dossiers, dont la Sodise, de Noël, etc., qui ont fait qu'il y avait un désaccord majeur sur les méthodes aussi de management, etc., qui a fait que Claude et Christian se sont séparés, que Christian a quitté la maison. Effectivement, suivant les interprétations qu'en donne chacune des parties, mais c'est très vivant tout ça.
Chacune des parties, on n'en entend qu'une. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont retombés au silence. Oui, enfin, je ne sais pas.
Enfin, Christian Gallimard s'est exprimé sur le sujet, quand même. C'est quelqu'un qui est encore très actif comme éditeur. D'ailleurs, il a créé sa maison en Suisse après. Et c'est quelqu'un qui est présent dans le monde de l'édition aujourd'hui, avec sa propre marque qui s'appelle Caligramme, en l'occurrence. Mais il y a eu une histoire douloureuse. C'est incontestable entre Christian et son père, et d'une certaine façon aussi avec le reste du management de l'entreprise. Prise à cette époque-là, manifestement. Parce que le fils a été contesté. Les différents cadres de la maison, les salariés de la maison, comment ils se positionnent par rapport à cet état compliqué, situation complexe.
C'est étonnant de devoir choisir entre un père et son fils, sachant que le pépé est toujours là.
C'est compliqué. Sachant qu'en outre, Les trois autres enfants sont déjà dans l'entreprise, hein, puisqu'il y a,
parce qu'on intègre deux sœurs et on intègre toujours les gens dans l'entreprise.
Ouais. Enfin, là, en tout cas, pour cette génération-là, oui. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, ça s'est réglé de façon douloureuse après, au moment de la succession de Claude, à un moment où, effectivement, Claude a choisi manifestement Antoine Gallimard pour lui succéder, donc son fils cadet, et que cette succession a été contestée.
Parce qu'il avait donné un petit peu plus.
Parce qu'il avait donné, il avait voilà. Effectivement vendu des parts d'action, des parts de l'entreprise.
Et là, ça devient une sorte de thriller, donc, un thriller boursier.
Et judiciaire. Judiciaire. Non, pas boursier, parce qu'on n'est pas coté, donc judiciaire. Ça c'est
voilà. Des accords avec des banques qui rachètent. Enfin, il y a eu aussi ce côté Paris.
Voilà, financier.
Financier.
Pas boursier, financier. Boursier, c'est un terme tabou. Alors là, si vous parlez de tabou, il y a vraiment tabou chez Gallimard.
Mais alors, tant pis, on pourrait encore en parler beaucoup. Ça évite de poser les questions qui tuent. Sur la succession. Il y a encore des Gallimard à suivre encore après, malgré tout. Oui. Antoine a placé.
Antoine a fait aussi des enfants.
Oui, mais alors pas de fils.
Ah bah oui, mais
alors est-ce que c'est pas ennuyeux pour la est-ce que c'est pas ennuyeux pour le nom pour le nom un jour il y aura plus un Gallimard qui portera le
vous savez la présidente aujourd'hui du Mercure de France qui est donc une maison qui appartient au groupe Gallimard c'est Isabelle Gallimard Franck donc la sœur on l'appelle Isabelle Gallimard
bon enfin c'est pas vécu comme un traumatisme sur Henri VIII où il fallait à tout prix avoir un garçon
n'est pas du tout vécu comme un traumatisme enfin que je sache en tout cas
d'accord ça vous le saurez peut-être dans 20 ans en retrouvant la correspondance d'accord voilà bon c'est vrai qu'il y a plein j'avais encore plein de sujets à aborder parce que c'est 100 ans ça ne s'aborde pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelques questions rapides ou qui pourront se répondre par oui ou par non vous Bon, en tout cas, il me reste à remercier Alban Cerisier de s'être prêté à ces questions. Et manifestement, on ne peut pas le coincer facilement sur un sujet qui vrai,
il vrai passionne. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a une grande histoire littéraire derrière tout
ça.
C'est
vrai.
Ce que j'essaye un peu de dire aussi là-dessus. On n'en a pas trop parlé.
On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai
que somme
toute, c'est vrai que ça passionne aussi les libraires. Oui, allez-y. Oui. Eh bien, il me reste donc à vous remercier une deuxième fois. Et puis la prochaine fois, on parlera surtout des auteurs. C'est vrai que là, les auteurs, en même temps, il y en a tellement chez Gallimard qu'on a le sentiment que si on commence à en parler d'un, on va éviter tous les autres. Et voilà. Mais qu'en tout cas, ça reste une maison pour vous qui restera toujours une maison de littérature, malgré tout.
Fondamentalement.
De littérature. Même si on se rend compte qu'il y a énormément de choses et que,
oui.
Et que, voilà, que la multiplicité des fonds fait aussi cette richesse. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Alban Cerisier. Rendez-vous donc pour les 150 ans où vous serez devenu un vieux chartiste.
Je laisserai la parole à d'autres.
Vous avez plein de choses à raconter. Merci.
Merci beaucoup à vous.